bienvenue au Cirque électrique pour cette soirée chapiteau anti-facho. Oui, je pense qu'on peut déjà s'applaudir parce que cette soirée marque le début de l'annulation de la soirée du 4 décembre prochain, la nuit de bien commun. C'est pourquoi on est mobilisé ici pour cette annulation et bien sûr, comme on est différentes orgas qui avons appelé à l'organisation de cette soirée, comme on bosse de manière unitaire, comme on est capable de construire un front uni, on va gagner, comme à Aix, parce qu'à Aix, ils ont réussi à annuler la soirée du bien commun, et le 4 décembre prochain, cette soirée aussi n'aura pas lieu. Juste quelques mots sur la soirée. Du coup, dans le programme, il va y avoir trois tables rondes dont je laisserai Soraya prendre le soin de vous les présenter puisque c'est elle qui va modérer les trois tables rondes. Ce sera suivi d'un DJ set à partir de 22h30. Tout au long de la soirée, vous l'avez déjà vu, il y a des stands de différentes organisations qui sont présents pour vous présenter leur contenu. Et on a aussi un super atelier pancarte autogéré pour commencer à construire les plus belles pancartes qu'on peut pour la mobilisation du 4. Et le cirque nous propose son bar avec de la nourriture et de quoi boire. Pour info aussi, on a une cellule de veille anti-VSS et pour repérer les camarades qui veillent au bon fonctionnement de la soirée et à cadrer si jamais il y a des problèmes, il y a des personnes qui normalement portent des gilets fluo et voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher ces personnes en cas de moindre problème. Et puis aussi un dernier mot pour remercier forcément tous les bénévoles qui se sont investis pour cette soirée et grâce à qui, ce soir, on peut offrir notre soirée antifasciste contre ce terrain et son monde. Merci beaucoup. Et je rappelle juste que la soirée est à prix libre, donc il y a une petite caisse à l'entrée. Le prix libre permet notamment de financer notre mobilisation, donc n'hésitez pas à participer à la hauteur de ce que vous pouvez. Merci les camarades.
Merci beaucoup Maxime. Alors on a une première partie de cette soirée qui va être articulée autour de tables rondes, comme tu l'as dit. Ces tables rondes, elles ont un sens et... elle s'articule donc avec trois parties. La première, c'est d'essayer de comprendre c'est qui ce terrain, c'est quoi Périclès. C'est devenu une nouvelle figure de l'extrême droite, il faut le dire. On avait déjà Bolloré ce terrain. On a appris beaucoup de choses à son sujet, notamment grâce au journal L'Humanité. Dans un second temps, on va s'intéresser aux luttes un peu partout en France. Qu'est-ce que le projet de ce terrain, pourquoi c'est pas simple, et on va montrer tous ces collectifs qui soient en quête, soit luttent, et ce à quoi ils sont confrontés, comment ils s'organisent, etc. Et puis dans un troisième temps, on va regarder ce que nous, on peut faire, parce qu'en fait, on a plein de forces, et on va détailler ça avec certains de nos invités, on a plein de collectifs. Alors, juste un mot, peut-être pour vous dire que c'est très important de comprendre que c'est un tout, et peut-être dire quelques mots sur Pierre-Édouard Sterrin, parce que le projet Périclès, qui a été révélé il y a quelques mois par Thomas Lemayeux, donc journaliste, enquêteur à l'UMA, il nous a fait découvrir un espèce de business plan délirant où, en 10 ans, Sterrin envisageait de mettre près de 150 millions d'euros sur la table pour promouvoir l'extrême droite. Et s'il le peut, c'est parce qu'il a fait fortune avec des smart box, donc ce sont des coffrets cadeaux de tourisme, hein, globalement, si on va simplifier. Et il a construit un projet très précis qu'il a nommé Périclès pour patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens et souverainistes. Et il mise aussi sur le rachat de titres de presse. Alors il a essayé avec Marianne notamment, ça n'a pas fonctionné. Il a essayé de mettre son bras droit à la tête du groupe Bayard. Ça s'est heurté à la résistance des rédactions. Et Pierre-Édouard Sterrin s'intéresse apparemment aussi à Valeurs Actuelles. Et puis, il s'engage aussi dans le numérique. Alors, il a racheté des comptes comme Serfia l'année dernière. Et puis, il finance des médias en ligne, des influenceurs d'extrême droite qui sont très actifs sur Instagram ou TikTok. On va donc débuter cette première table ronde. Je précise que des petits papiers vont être distribués et ça vous permettra de noter vos questions qui seront collectées et on tentera de répondre à ces questions à la fin de ce triptyque de débat. Avant de débuter cette table ronde, on voulait vous montrer ceci.
Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés de souche européenne, deux, de faire en sorte que ces bébés soient baptisés, donc d'évangéliser de façon plus globale. Alors, il ne s'agit pas uniquement d'évangéliser les bébés, mais également d'évangéliser tous ceux aujourd'hui qui ne sont pas catholiques ou qui sont d'anciens catholiques. Sur la natalité, c'est tout simple. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont jeunes, mariez-vous jeunes et faites un maximum de bébés. Aidez, si vous êtes déjà marié, déjà fiancé, aidez vos amis qui sont célibataires à rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est une action très concrète également qui leur permettra de former un couple. Diffuser une image positive de la famille. Sur les sujets d'évangélisation, là encore, je pense qu'il y a énormément d'actions extrêmement concrètes qu'on peut tous réaliser en allant voir nos voisins ou en développant des actions plus importantes dans le secteur des médias ou autres afin de partager la bonne parole. Grande partie des médias sont gangrénés par le camp du mal. Je parle de la gauche et de l'extrême gauche. À nous d'agir justement, à nous d'investir des écoles pour devenir journalistes, à nous de rentrer dans des médias existants, à nous de nous abonner à des médias qui sont amis pour permettre à la bonne parole d'être davantage diffusée demain. Le combat n'est donc pas, selon moi, d'être contre le monde, mais dans le monde pour le transformer de l'intérieur. Je suis assez convaincu qu'en mettant un peu d'argent sur la table et en appliquant effectivement les méthodes du business, on va arriver à faire bouger tout un tas de lignes.
Voilà pour cette mise en bouche qui est édifiante et qu'on doit aux collègues de Mediapart. Peut-être avant de débuter ce débat, je dois vous dire qu'il va y avoir une captation vidéo. C'est important. Ça permettra de réaliser un petit montage ultérieurement. Il y a aussi parmi nous une militante qui enregistre aussi des sons et qui va prendre des photos. On voulait vous le préciser. Et certains des intervenants ce soir ont fait le choix de ne pas être filmés et ils pourront se situer un peu à l'extérieur. Enfin, ne vous inquiétez pas si un intervenant ou une intervenante est très décalé par rapport aux autres, ce sera probablement pour cette raison-là. Alors, on a vu que Mediapart ou l'Humanité ont eu un rôle très important. Ce travail d'enquête, il est aussi fait par Hors Cadre, qui est un collectif de journalistes. Et justement, Rosane Le Carboulec est parmi nous ce soir. Donc, Rosane, tu es, on se dit tu, journaliste indépendante. Tu travailles beaucoup pour Basta et donc tu es membre de ce collectif qui réunit une vingtaine de journalistes qui sont des journalistes pigistes, donc indépendants comme toi. Et vous avez été lauréat d'un prix du Fonds pour une presse libre qui vous a permis de lancer un peu moins d'une quinzaine d'enquêtes sur la galaxie Sterrin. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Est-ce que là c'est bon? Oui. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation et l'occasion de parler de notre travail. Donc effectivement, moi je suis membre d'un collectif de pigistes qui s'appelle Hors Cadre et on a été lauréat d'un appel à projet pour enquêter sur l'extrême droite en février dernier. On est une vingtaine de journalistes au sein de ce collectif et on est quatre à avoir construit le dossier pour cet appel à projet et on a décidé nous d'axer notre travail sur les structures principalement associative, financée par la Galaxis Terrain au travers de son fonds du bien commun et des nuits du bien commun. Donc son fonds du bien commun qui est un fonds de dotation, un de ses très très nombreux fonds, je pense qu'Olivier reviendra là-dessus tout à l'heure, avec lequel il finance notamment des associations conservatrices et les nuits du bien commun qui sont des soirées caritatives de levée de fonds qui sont nées en 2017 et qui ont permis de lever à ce jour plus de 21 millions d'euros pour des associations, alors qui ne sont pas toutes forcément catholiques, conservatrices, réactionnaires, mais dont beaucoup quand même épousent une vision de la société assez conservatrice et très à droite et épousent du coup les propos de Pierre-Édouard Sterrin qu'on vient d'entendre à l'instant. Donc ce projet d'enquête, il est axé sur plusieurs associations qui interviennent à la fois auprès des femmes dites vulnérables, auprès des jeunes. On s'est aussi intéressé à des médias. Moi, j'ai par exemple fait une enquête pour Arrêt sur Image sur Néo TV et Lou Média. Donc Néo TV étant la maison mère de Lou Média, qui est un média qui se présente comme un média pour les femmes, pour les mères inspirantes, et qui en fait véhicule là encore une vision de la société assez rétrograde, une vision très conservatrice des rôles genrés dans un couple. Et donc, ce projet, on le mène en partenariat avec une dizaine de médias indépendants. Parmi lesquels Basta, Médiacité, Reporter, La Disparition, Le Poulpe, Le Bondy Blog. Est-ce que j'en oublie ? Bon, je regarde mes collègues, La Déferlante. Voilà, c'est un projet d'enquête qu'on n'aurait jamais pu mener en fait sans le fonds pour une presse libre et sans l'argent qu'on a reçu grâce à cet appel à projet, parce que ce sont des enquêtes qui prennent énormément de temps, que la Galaxis Terrain, on va en parler, je pense, est très dense et qu'il est très compliqué d'y voir clair là-dedans, et que les associations qui sont financées par les nuits du bien commun sont elles-mêmes extrêmement nombreuses. Donc nous, on a décidé de s'arrêter sur certaines associations. Donc, par exemple, on a déjà quelques enquêtes qui ont été publiées. Là, on a plus de la moitié des enquêtes qui ont été publiées. J'ai une collègue, Elsa Sabado, qui est dans la salle, qui s'est intéressée à Laissez-les servir, une association une colonie de vacances de recadrage républicain pour les jeunes. Donc ça, c'est une enquête en plusieurs volets pour le Bondy Blog, que je vous invite à aller lire. J'ai une autre collègue qui s'appelle Annabelle Martella, qui a écrit avec Simba Damash un papier du coup pour une série d'enquêtes pareil pour Basta sur les cités immersives et tous ces spectacles en fait qui revisitent aujourd'hui l'histoire de France en s'inspirant très largement du Puy du Fou. Voilà, et il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres à venir, et ce travail nous a semblé essentiel. Parce que, en fait, cette façon de noyauter peu à peu les associations là où l'État se désengage, se désinvestit au fur et à mesure, et ça va sans doute être encore plus le cas avec le budget qui va être peut-être voté ces prochaines semaines, en fait, il y a une réelle influence idéologique qui se fait sur le terrain. Sterrin la disait dans la vidéo à l'instant, qu'on n'est pas contre le monde, mais dans le monde pour le transformer de l'intérieur. Et c'est exactement ce que fait Sterrin, en fait, en choisissant de financer ces associations dans un projet métapolitique. Donc, c'est-à-dire que il investit le champ idéologique et culturel en vue d'investir le champ politique et de faire gagner l'extrême droite aux prochaines élections, notamment aux prochaines municipales. Donc nous, ça nous a paru vraiment essentiel de documenter tout ça. Donc je vous invite à suivre notre travail, à suivre le compte Instagram de Hors Cadre, sur lequel on publie les enquêtes au fur et à mesure, à aller lire nos enquêtes, à vous abonner aux médias indépendants. Et je vous invite par ailleurs à une soirée qu'on organise autour de notre projet, où on va présenter une cartographie des associations qu'on enquête. Et ça, ce sera le 28 novembre. Donc, je vous invite à noter la date d'ores et déjà. Le 28 novembre au TLM, dans le 19e arrondissement à Paris, à partir de 19h.
Alors, on est sur ce thème des enquêtes, puisque vous avez toutes et tous, chacun, participé au fait d'identifier, de décrire ce que fait ce terrain au pays, à la société, à la culture, au monde des associations. On va peut-être en parler avec toi, Léa, puisque tu es membre du syndicat Asso Solidaire.
Alors, c'est Léa ou...
Elsa, pardon. Excuse-moi, Elsa. Toi, tu as vu le système terrain avoir un impact concret sur les associations et quelque part un peu les coincer, c'est ça ?
Alors, nous, en fait, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de nouveau, ce terrain. Je vais redire, donc, Asso Solidaire, en fait, c'est un syndicat qui existe depuis 15 ans aujourd'hui. On s'est créé pour parler des conditions de travail, notamment dans les petites structures où la barrière entre salariat et militantisme est assez fine. Et aujourd'hui, en fait, on se dit qu'on est le syndicat qui lutte contre les patrons de gauche, entre guillemets. Effectivement, en fait, nous, la plupart de nos employeurs sont plutôt des assos de gauche. On voulait rappeler quand même que le secteur associatif, c'est 1,6 million de salariés. Les associations sont présentes sur des secteurs aussi divers que le sport, la culture, le périscolaire, la solidarité internationale ou le médico-social. Ce qui fait notre secteur, comme le disait Rosane, un levier hyper important pour le projet Périclès porté par Sterrin et son entourage. Il faut rappeler aussi que l'ensemble du secteur associatif, en fait, il est aujourd'hui dans une situation de très grande précarité face à la politique austéritaire des gouvernements successifs et aujourd'hui accentuée par le gouvernement de Macron. Aujourd'hui, plus que jamais, le milieu associatif est menacé dans ses missions, notamment en vue du budget Le Cornu, qui prévoit une baisse de 221 millions d'euros du budget consacré aux associations et à la jeunesse pour 2026. Je vous invite à retenir ce chiffre, 221 millions d'euros. Et les baisses et les suppressions de subventions, en fait, publiques, amènent les associations à chercher des financements privés. En plus de ces problèmes de financement, les libertés associatives, elles sont attaquées. On peut citer la loi séparatisme, le contrat d'engagement républicain, la multiplication des dissolutions et le conditionnement de plus en plus clair des financements publics à des projets conformes à un projet réactionnaire. On vient d'apprendre aujourd'hui que la CAF du Calvados, donc la Caisse d'allocation familiale du Calvados, a retiré ses subventions au planning familial pour des raisons transphobes. Dans ce contexte, les associations, elles sont particulièrement vulnérables face aux pressions de l'extrême droite et des financements douteux. Et donc, Sterrin, il apparaît comme un philanthrope soucieux de la vitalité du secteur associatif qui assure des missions de service public aujourd'hui indispensables au bon fonctionnement de la société, tout en promouvant par ailleurs une baisse substantielle des dépenses de l'État, d'après le modèle libertarien qu'il soutient. On rappelle que Sterrin, c'est quand même un exilé fiscal. Et du coup, pour lui, il y a un vrai projet d'apparaître comme une alternative à la perte de ses financements publics et promouvoir son modèle de charité et de philanthropie qui rend le secteur associatif dépendant des financements privés et de ses intérêts. En clair, pour nous, c'est une étape de plus pour la mise en pas pour la mise au pas du secteur associatif. La stratégie Sterrin, en fait, et des consorts, c'est de réformer le modèle des associatifs et d'en rendre quelque chose de hyper libéral. Il parle de venture philanthropie, c'est-à-dire de fait de gérer des associations comme des entreprises avec des objectifs et une exigence plus poussée. En vrai, dans les assos, en fait, on a déjà des exigences poussées et on a déjà des objectifs. Tout ça, ça montre aussi la manière la façon dont Sterrin voudrait que les assos soient gérés. On vous rappelle que la loi 1901, en fait, elle prévoit une gouvernance associative, quelque chose de démocratique. Et là, en fait, on a des gens qui veulent devenir patrons des associations avec des idées réactionnaires. Et effectivement, pour nous, c'est surtout une façon d'infuser des idées réactionnaires et mener à bien son projet idéologique qu'a expliqué Rosane. Pour nous, pour notre syndicat, tout ça, c'est pas nouveau, mais ça augmente des tendances hyper brutales qui ont un impact direct sur nos conditions de travail. La première, c'est en fait la recherche de financement de plus en plus précaire et conditionnée, et de plus en plus conditionnée, fait que nous, salariés, on fait d'autres choses que ce que notre association doit faire. On doit rechercher des fonds. Et ça, en fait, on est dans une obligation de dire « Ah, si on veut que l'association continue, faut qu'on trouve de l'argent. » Et peut-être que l'argent pourri, c'est pas si grave que ça. Et donc, du coup, on se retrouve souvent dans des situations de conflit de valeurs. Le deuxième truc, c'est qu'on transforme petit à petit les missions de nos assos pour les rendre plus conformes aux appels à projets, et notamment aux appels à projets qui peuvent, enfin, de la réactionnaire ou de l'extrême droite. Et du coup, il y a une vraie perte de sens pour nos emplois. Enfin, en fait, il y a une vraie des pressions qui sont faites sur comment on doit faire notre travail, notamment auprès des publics qui l'accueillent. Et ça joue, enfin, ça nous met vraiment en danger en termes de santé mentale et santé physique, mais aussi les publics qu'on accueille. On se voit des fois, on nous demande de refuser les femmes voilées, par exemple, dans des associations, puisque ça ne correspond pas aux financeurs et ça ne fait pas bien sur le papier. Enfin, c'est notre liberté d'expression qui est attaquée en tant que salarié et toutes les représentantes, dont les représentants syndicales, notamment. Depuis la loi séparatisme, le contrat d'engagement républicain, on est menacé parce que, en fait, une prise de parole politique par n'importe quelle personne d'une association peut mettre en danger le salarié ou le membre de l'association. Et on a un exemple, on a une camarade à Lille qui est dans une association qui fait de l'aide au logement. Son association a perdu la moitié des financements parce qu'elle a participé à une action avec son association suite à une expulsion d'un campement. Et ça, c'est hyper grave. Donc du coup, on est là-dessus. Et la dernière chose aussi, c'est qu'en fait, ça arrive petit à petit. Et il y a une intégration des idées conservatrices dans les associations dites de gauche. On peut voir qu'il y a des associations qui sont tranquilles en fait, de participer à la militarisation de la jeunesse avec le service national universel, ou la Ligue de l'enseignement qui est OK d'envoyer les jeunes au Puy du Fou, ou encore on peut parler du fait que beaucoup de plus en plus d'associations refusent que des femmes voilées puissent être salariées dans leur structure. Donc nous aussi, par ailleurs, on travaille avec les camarades d'autres syndicats. On pense aux camarades de Sud Éducation et du SUNDEP, qui est le syndicat de l'enseignement privé de Solidaire. Et en fait, on voit bien aussi qu'ils ont identifié l'entrée de financement de ce terrain dans les financements des associations qui font l'éducation de la vie sexuelle dans les écoles. Et donc ça a été identifié et documenté par les camarades de Sud Éducation et du SUNDEP. Et par ailleurs, on sait que dans le projet de ce terrain, ils participent aux attaques contre l'école publique en finançant des écoles privées hors contrat avec un projet catholique hyper traditionnaliste via des associations comme Excellence Ruralité et Espérance Banlieue. Pour conclure, en fait, nous, face à ces attaques, c'est l'ensemble du secteur associatif qui est menacé, tant dans la liberté de ses positions que dans ses financements. Et par extension, sa neutralité face aux privés capitalistes et aux agendas politiques réactionnaires. Nous, on fait partie de l'Union syndicale solidaire car notre syndicalisme n'est pas qu'un syndicalisme de boîte. On croit au syndicalisme de lutte et de transformation sociale. Il nous semble donc important de lutter au-delà de notre secteur et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, pour amplifier notre rapport de force contre l'extrême droite. C'est pour ça que nous sommes présents ici ce soir aux côtés des camarades du planning familial. On a des sections syndicales qui s'en prennent hyper cher en fait un peu partout. Aussi les camarades sans papier de Chronopost qui sont en grève depuis plus de 3 ans aujourd'hui ou encore auprès des camarades qui eux aussi sont attaqués. En gros, nous, à Solidaire et Assos, on sait que le fascisme se cache derrière le capital et que la lutte antifasciste est une lutte syndicale et on continue le combat.
Merci. Merci.
Es el vals antifascista, lo bailan los guachos, lo bailan las guachas. Es el vals antifascista, no dejaremos de luchar jamás. En la esquina de un lugar de bar, borracho de idea, me puse a bailar. Tus ojitos de bandida no me dejan de mirar. Brindemos por los que están presos, brindemos por los que no están. Aunque la muerte sea nuestro final, nuestra trinchera es
une valse antifasciste, t'es motivé, t'es sur la piste, tu l'enregistres dans la playlist, tu la partages, tu prends des risques, t'es un wokiste, séparatiste, t'es un gauchiste, indigéniste, t'es anarchiste, t'es féministe, faut que tu fasses gaffe, t'es sur la liste, tu veux de la valse, tu veux guincher, t'auras du rap, poil à gratter, ça va kicker, ça va piquer, y'a des oreilles qui vont saigner, ils ont la haine des immigrés, ils ont la trouille d'être remplacés, n'en fallait pas nous inviter, n'en fallait pas coloniser, on est sincère, on est bruyant, on est bavard, on est barbare, on est saoulant, évidemment, on est sympa, mais pas souvent, on refait le monde, il est hardcore, on le critique, on le décore, on le bouscule, on l'améliore, quand on est plein, on est plus fort.
Et c'est le bas, antifasciste, lo baila los guachos, lo baila las guachas, c'est le bas, antifasciste, no dejaremos de luchar jamás.
Elsa, tu décris bien un peu les mécanismes d'entrisme, du fait d'avancer masqué, d'essayer de transformer beaucoup de choses de l'intérieur. Je crois, Léa, que tu as une expérience en la matière, puisque alors toi, tu es membre du collectif Carrément Antistérin. Tu vas nous apporter un témoignage de mobilisation. Je précise que tu le fais pas en tant que représentante d'un collectif, mais en tant que militante qui porte ta parole. Et en gros, le collectif Carrément Antistérin, il a permis de coaliser des groupes qui se sont rendus compte que la nuit du bien commun était liée à ce terrain.
Bonsoir, j'ai un peu intimidé. Donc la section Carrément Antistérin, en effet, parce qu'on nous demande un petit peu souvent qu'est-ce que c'est, quelle forme ça a, etc. Ça, c'est pas voulu être une organisation, enfin c'est pas quelque chose qui s'est créé et puis après qui a essaimé. C'est plutôt parti d'un constat qu'en fait partout sur le territoire il y avait des mobilisations, pas forcément en connexion en fait, qui s'attaquaient à certains axes de la galaxie terrain. Ça pouvait être autant la nuit du bien commun, mais aussi par exemple, bah, tu parlais des, je me permets de tutoyer aussi, mais des écoles hors contrat, des académies Saint-Louis en Sologne. Il y a eu aussi une première mobilisation qui a porté ses fruits d'un collectif aussi contre un lotissement pour catholiques intégristes qui s'appelait Monasphère. Tout ça étant lié à chaque fois à ce terrain et vraiment dans la logique qui a été décrite de son projet politique. Et en fait, constatant un petit peu ces mobilisations qui existaient un petit peu partout et le travail d'enquête qui a été mené un petit peu partout par les militants, c'était plutôt comment comment on coopère sur ce travail d'enquête, comment on essaie, puisque comme tu le disais aussi, la galaxie terrain, elle est tellement énorme, elle est tellement diffusée sur le territoire que c'est complexe en fait de visualiser un petit peu la façon dont elle s'étend dans différents domaines et sur le territoire. Et donc l'idée, c'était vraiment d'utiliser la force qui est le nombre de militants et militantes un peu partout pour essayer de cartographier tout ce travail qui est ce terrain. Il y a une petite cartographie qui existe, je sais pas si c'est... Ouais, c'est celle-ci. Alors ça, c'est le résultat du travail d'enquête un peu des militants, militantes un peu partout en France. C'est le résultat général, entre guillemets, qu'on a divisé en trois grosses bulles. La bulle économique, la bulle caritative, philanthropique et la bulle politique. J'y reviendrai un peu après. Mais du coup, voilà, donc l'ASCA, c'est vraiment cette coopération de différents endroits, de différentes façons de lutter, de militer pour s'opposer à ce projet qu'est Périclès. Ce travail d'enquête, il a démarré autour du Fonds du bien commun et de l'axe caritatif, puisque avant même la publicisation du projet Périclès par le journal Humanité, donc il y avait un travail d'enquête qui avait démarré sur le Fonds du bien commun. Ça venait en fait du fait de constater, enfin voilà, dans certains endroits, les gens constataient la présence de certaines assos dans lesquelles on voyait s'organiser des militants identitaires, les cadavres un peu de la manif pour tous, enfin voilà, un petit peu tous ces trucs-là, puis on les voyait s'organiser autour d'associations qui avaient quand même beaucoup de financement, etc. On s'est dit, ok, c'est un peu étrange, on va voir un petit peu fouiller d'où ça vient, puis on se rend compte qu'en fait, au-dessus de à peu près tout ce qu'on identifiait, il y avait ce fond qui du coup nous interrogeait beaucoup, et c'est de là qu'est partie l'enquête. Et quand le journal Humanité a sorti le projet Périclès, d'un coup un peu c'était ah bon voilà, ça fait sens, maintenant on comprend un petit peu mieux, voilà un petit peu d'où c'est parti ce travail d'enquête. Maintenant les mobilisations autour de l'ASCAS, on y reviendra un petit peu je pense sur la troisième table ronde, mais du coup elles prennent des formes très très différentes selon là où elles se, les foyers un petit peu de mobilisation, elles peuvent être sur la nuit du bien commun mais pas que, du coup comme je disais tout à l'heure, et ça peut être le fait de collectifs, ça peut être le fait de co-organisation de collectifs, ça peut être le fait d'individus autonomes, d'assemblées générales, ça peut être le fait de petits groupes qui s'organisent, qui vont décider d'aller faire un collage, etc. C'est très très différent selon les villes. Ce qu'on constate par contre partout, c'est le dispositif policier absolument délirant à chaque action, à chaque mobilisation, et ça s'est vraiment constaté même dans les plus petites villes pas forcément habituées à des gros dispositifs policiers, à chaque fois ceux qui se mobilisent vraiment font remonter ce constat de waouh, on n'avait pas vu ça depuis longtemps quoi. Donc ça, en tout cas c'est que ça gratte quelque part d'intéressant, et j'y reviendrai aussi peut-être, mais on est assez content de voir qu'en face ça réagit, qu'il y a pas mal de, ils sont obligés en fait de faire du ménage, de changer les noms de leur structure, de dire ah non, on n'est pas affilié à ci, pas affilié à ça, et en fait ça fait du bien aussi de voir que pour une fois notre lutte en face ça réagit, et qu'on n'est pas face à un monstre froid qui roule, quand bien même nous on y met toutes nos forces, là on les voit un peu vaciller et ça fait du bien.
Merci Léa. Ce qui frappe, c'est que c'est vraiment un jeu du chat et de la souris, en fait, et que ce terrain semble nous échapper toujours, et on lui court après, et il y a ça aussi. Olivier Petitjean, toi, tu es avec nous au nom de l'Observatoire des multinationales. Là, c'est la même chose, la galaxie ce terrain a l'air de grandir, mais c'est une structure qui a l'air de plus en plus difficile à comprendre si on s'intéresse à cette partie de la structure économique.
Ouais. Merci, bonsoir. Donc moi, effectivement, je travaille pour l'Observatoire des multinationales, et donc notre spécialité à la base, c'est de travailler, comme le nom l'indique, sur les entreprises, comment c'est structuré. Et donc, évidemment, on apporte cette expertise, cette expérience à comprendre comment ces milliardaires d'extrême droite, possesseurs d'entreprises, fonctionnent. Donc, on l'a fait pour Bolloré il y a quelques mois en partenariat avec Attac, et là, on a voulu le faire pour ce terrain. Donc, vraiment, notre rapport, entre guillemets, c'est vraiment de plonger dans la machine. Donc, là, on a beaucoup parlé de ce que ce terrain finançait avec son argent. Nous, on a été voir comment son argent est produit, en fait. Donc là, on a publié, c'est la version simplifiée. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site multinational.org. Ça s'appelle le système Serin. Vous aurez la version réelle qui est beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est une version simplifiée. Donc on a été se plonger avec mes collègues dans les rapports annuels, les comptes, pour comprendre comment c'était structuré, d'où venait l'argent et partout où était ce terrain. Donc premier renseignement, et ça se voit un peu à ça, ce terrain en fait, dans l'imaginaire public, on dit oui, c'est la smart box, c'est quelqu'un qui investit beaucoup dans les startups, la tech. En fait, c'est beaucoup plus large que ça, il est partout. Il est dans la restauration, il fait de l'immobilier, ils investissent dans le nucléaire, des startups du nucléaire, il investit dans la compagnie des amandes de Montebourg, voilà. Et évidemment des médias, je vais y revenir. Donc il a vraiment beaucoup d'activités. Et d'un point de vue militant, évidemment, qui dit beaucoup d'activités, dit aussi beaucoup de prises sur lesquelles on peut le prendre. Deuxième constat, effectivement, c'est vraiment complexe. C'est une version très simplifiée. Et donc c'est de plus en plus complexe. Donc à fur et à mesure, et en particulier à partir du moment où il a commencé à être connu de l'humanité et des gens qui travaillent sur le secteur associatif qui le voyaient arriver, il a commencé à cacher un peu ses traces. Donc maintenant, autant les participations qu'il a depuis quelques années, on les maîtrise assez bien. Là, ça, il n'arrête pas de bouger, de faire des manœuvres. Donc, on sait qu'il est quelque part, mais pas exactement à combien de pourcents. Voilà. Bref. Donc, ça devient de plus en plus complexe. Troisième enseignement. Très important, c'est qu'en fait, c'est pas du tout séparé le côté économique et le côté politique. C'est un peu l'argument que, parce qu'évidemment, en sortant tout ça, ça a été dit, dire ah oui, vous travaillez avec Sterrain, vous êtes financé par Sterrain. Au fur et à mesure, ça commence à emmerder les gens qui travaillent avec Sterrain, qui sont pas forcément, c'est pas des gens de gauche forcément, mais c'est pas tous des fachos complets. Donc, ils aiment pas trop qu'on leur rappelle qu'ils bossent avec Sterrain. Et ils disent, mais Sterrain, et c'est ce que dit Montebourg, pour justifier qu'il est en affaire avec Sterrain sur quelques entreprises, il dit, non, mais de toute façon, moi, ça m'intéresse pas, les convictions personnelles de Pierre-Édouard Sterrain, moi, ça, c'est du business, le business is business, quoi. En fait, c'est pas du tout vrai. Tout ce dont on a parlé là, et notamment le fonds du bien commun, mais pas seulement, l'Académie Saint-Louis, etc., c'est totalement intégré, à cet empire Sterrain, donc tout ça, cette galaxie. La seule chose qu'on peut dire, c'est que pour le projet Périclès, il a créé quelque chose de séparé du reste. Donc c'est tout en haut. Mais ça reste des entreprises, en fait. À la base du projet Périclès, il a pas créé une association, il a pas créé un parti politique, il a créé des fonds qui sont basés, je vais y revenir, en Belgique. Et qui ensuite sont censés financer des choses, mais ça reste dans la même logique un peu. C'est pas le venture philanthropisme comme on a dit, mais c'est le venture politique. Et tout ça, c'est des méthodologies qu'il a pas du tout inventées. Donc faut pas, ça a pas été dit, mais aussi clairement. Mais Sterrain, c'est pas une lumière en fait. C'est pas un génie de l'économie, c'est pas un génie de la politique. C'est quelqu'un. Bon bref. Et donc ce qu'il fait, c'est appliquer les méthodes américaines en fait. Et c'est clair, et tous les gens autour de lui, ils ont appris de ce qui avait été fait aux États-Unis où depuis longtemps, il y avait des milliardaires qui financent des trucs chrétiens, qui travaillent le niveau éducatif. Tout ce qu'il fait là, c'est des méthodologies, il fait que les répliquer au modèle français. Donc ça reste dans cette même logique. Et j'en viens au dernier point, pour pas être trop long, qui est peut-être le plus important, c'est d'où vient l'argent. Effectivement, ça a été dit, Sterrain à la base... son argent, il vient de la Smartbox. C'est le créateur de la Smartbox et il vient de la Smartbox à deux niveaux. Le premier, c'est que pendant longtemps, la Smartbox a été très profitable. Donc, il a ramené des profits qu'il a utilisés. Et deuxième, le modèle, et là, je suis désolé si je rentre un peu trop dans le mécanisme économique, mais c'est important ensuite d'un point de vue stratégique. La Smartbox, c'est aussi de la trésorerie, quoi. C'est-à-dire, on achète, les gens, ils achètent un coffret et c'est utilisé un an plus tard, voire c'est pas utilisé. Il y a au moins 20% qui sont pas utilisés. Donc, ça veut dire de l'argent qu'il a dans ses caisses et qu'il a besoin de décaisser pour payer le restaurateur ou l'hôtelier, auprès de qui la Smartbox est utilisée. Et tout ce qu'il a construit, là, tout ça, tout cet empire, il l'a fait grâce au profit et surtout à la trésorerie de la Smartbox. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que son facteur de richesse, il est quand même limité. Donc, cibler la Smartbox, on cible quand même l'essentiel des profits de Sterrain. Aujourd'hui, il a une deuxième source de profit importante, c'est tout ce qui est parc de loisirs, salle de loisirs, qui commence à monter. Mais ça, pareil, c'est sur la place publique, c'est un facteur de vulnérabilité aussi. Et ça veut dire que... il est potentiellement dans des situations où il a des problèmes de trésorerie parce que, je rentre pas dans le détail, mais beaucoup de ses financements, il le fait sous forme de prêts. Et notamment, ça nous a surpris d'ailleurs parce que c'est très inhabituel, mais son fonds du bien commun qui est fonds de dotation, il le finance sous forme de prêts seulement. Il a jamais donné, il a donné, si je me souviens, 15 000 euros au départ et c'est tout, quoi. Tout le reste, c'est des entreprises de son empire, là, qui donnent des prêts. Et en ce moment, il y a eu plusieurs articles de presse dans l'IB, l'Obs et Le Monde. Effectivement, c'est vrai qu'il est dans une situation de crise de trésorerie, apparemment, d'après ce qu'on sait. Et donc, il y a quand même des gens qui commencent à se plaindre, qu'il avait dit « je vais vous soutenir », finalement, l'argent n'est pas arrivé. Et donc, voilà, tout cet effet de toxicité, il n'arrive pas à revendre ce qu'il voudrait revendre. Ça commence à peser sur sa trésorerie. Ça ne veut pas dire qu'il est mort tout de suite, parce que la trésorerie, c'est pas la même chose que les profits qui arrivent. Mais ça prouve quand même que son montage économique, qui est un peu d'optimiser tout le cash qu'il a sur son compte, en gros, et dans le compte des entreprises, c'est quand même une source de fragilité. Donc voilà, c'est un peu voilà, se plonger dans ces documents, c'est vraiment ce que ça va comprendre un peu d'où vient son argent et là où sont les vulnérabilités potentielles.
Et ça ne doit pas trop lui plaire comme travail non plus. Il a fait une chose, Sterrain, c'est qu'il a créé une holding du nom du journaliste qui avait révélé le projet Périclès.
Tout à fait, bah elle est là. Donc il a créé le Maillot Holding. Donc la société mère de Stérin, c'est BAD21. Donc ça, c'est tout ce qu'ils possèdent. Tout, c'est basé en Belgique, où je l'ai pas mentionné. Effectivement, au-delà d'être un exilé fiscal personnellement en Belgique, il a aussi beaucoup de ses sociétés en Belgique et pour la Smartbox en Irlande. Donc c'est des paradis fiscaux qui permettent d'être plus discret et aussi de, pour les projets politiques, d'échapper un peu à la aux lois françaises. Et effectivement, il a créé l'été dernier cette holding, donc un peu en guise de en guise de provocation, de agressive vis-à-vis de Thomas Lemayeux, qui est effectivement le journaliste de l'Humanité qui a révélé le projet Périclès. Mais ça montre aussi, voilà, que il a fini par lui rentrer dans la tête, donc c'est une bonne chose.
C'est absolument vertigineux. J'ai une question pour Rosen et pour Léa. On voit qu'il y a une forme aussi de dépolitisation, de tentative de dépolitiser ou de neutraliser un peu le message politique. Comment est-ce que vous l'analysez ?
De neutraliser le message politique, c'est-à-dire
de déneutraliser son engagement militant politique qui est clairement marqué à l'extrême droite, de le cacher en tout cas.
Ah oui, bah ça pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Enfin, Stérin, j'ai l'impression que au contraire, c'est un des rares milliardaires français qui affiche ses positions politiques. Bon alors, ça a été fait malgré lui avec le projet Périclès qui a été dévoilé par l'Humanité. Mais quand on voit les interviews, les rares interviews publiques qu'il donne aujourd'hui, son projet politique, il est clair.
On a l'impression qu'il a peu de recul là-dessus et que dans les actions comme on a pu l'entendre dans le cas des syndicats, en fait, on a l'impression aussi qu'il y a des petites choses qui arrivent par petites touches et puis qu'en fait, on nie tout ça.
Bah, en tout cas, nous, ce qu'on peut observer, c'est que c'est nié notamment par les associations effectivement, qui sont financées par les Nuits du Bien Commun, pour parler de notre travail et de ce qu'on connaît, nous, au collectif Hors Cadre, parce que ces associations, pour leur très grande majorité, elles se disent aconfessionnelles et apolitiques. C'est même inscrit dans leur statut, pour la plupart. Or, on se rend compte que c'est loin d'être le cas, que, par exemple, pour une association qui s'appelle la Maison de Marthe et Marie, qui accueille les femmes dites vulnérables, enceintes jusqu'au 1 an de leur enfant, bah, en fait, on propose, ou même on impose aux volontaires dans ces colocations de prier les laudes tous les matins. Voilà, donc en fait, on se rend compte vraiment concrètement qu'il y a un non-respect de la charte de la laïcité qui est censée leur être imposée, etc. Donc effectivement, ces associations-là tentent quelque part de masquer leur projet politique, ou du moins la manière dont Stérin tente de gagner les esprits et d'imprégner sa marque et son idéologie au travers de ces associations là mais concernant Stérin en lui-même, moi j'ai vraiment pas l'impression qu'il se dédouane de son projet politique, au contraire. Et pour le coup, voilà, il y a plusieurs enquêtes en cours sur son financement de campagne du RN dans le sud de la France, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le financement des campagnes auxquelles il n'est jamais venu. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est en cours, il sera peut-être puni un jour pour ça. Voilà, mais par contre, oui, effectivement, du côté des associations, les associations, elles, avancent clairement masquées dans ce projet idéologique, ça c'est sûr.
Léa, tu confirmes ?
Je peux peut-être compléter avec un ou deux éléments. Oui, je vais plutôt dans ton sens aussi, de ce que moi j'ai l'air d'en voir. Stérin, clairement, en effet, lui, il assume complètement en tant que personne. Ça abonde un peu dans l'idée de c'est pas une lumière, mais en fait, il comprend pas en fait même pourquoi on lui reproche de s'investir comme ça, de faire du flou entre le politique, le business. Lui, pour lui, tout fonctionne version américaine, et du coup, il ne comprend pas en plus qu'on lui reproche, et je pense, enfin je sais pas c'est mon avis, mais la commission d'enquête là qui est réalisée sur sur les financements de campagne, etc. Des fois je me demande, c'est premier degré, il comprend pas où est le problème, alors qu'enfin juste il n'a pas le droit légalement de faire des choses en France, mais comme c'est légal aux États-Unis, il est dans sa, en fait dans sa tête il a l'air d'être dans son bon droit pour tout ce qu'il met en place, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il pense. Donc Stérin, en effet, je pense que lui il avance pas masqué, ça c'est sûr. Du côté de tout l'espace philanthropique, d'une part, il se dédouane énormément politiquement de la bête noire qu'Estérin maintenant, avec qui il faut plus s'afficher. Là où politiquement ils assument quand même un axe qui est celui de Périclès, c'est celui de, en fait, du libertarianisme et de la libéralisation du milieu associatif. Parce que même s'ils se refusent à toutes les idées réactionnaires visiblement, enfin publiquement, etc., ils assument complètement le fait que les associations ne doivent pas être financées par le public, mais par des privés, par des mécènes, etc. Au point même que, enfin, pour avoir entendu des bribes de discussion à la sortie d'une nuit du bien commun de gens qui en sortaient et qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait une mobilisation dehors, pour expliquer à quelqu'un pourquoi les personnes se mobilisaient en face, etc. Ils disaient, ah mais de toute façon les gens de gauche et tout, eux ils sont financés par le public alors que nous on se débrouille de notre côté. Enfin, il y a vraiment une idée de mettre en lumière un projet politique qui est que de charité en fait, qui est que les vulnérabilités, le handicap, enfin tous ces sujets-là doivent être pris en charge non pas par l'État ou par le public ou par de l'argent mis en commun quoi, mais par des mécènes, par le privé, et ça c'est une boussole politique pour le coup assumée de la partie philanthropique de ce terrain, et que ce soit par la nuit du bien commun, au bol, la maison du bien commun, etc., et toute cette partie-là. Par contre, même s'ils n'assument pas tout l'espace, enfin tout ce qui leur est reproché de leur lien avec les galaxies réactionnaires, enfin même d'être en fait des militants clairement d'extrême droite, enfin là pour le coup, enfin ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, enfin les choses elles sont flagrantes, que ça soit dans les associations qu'ils accompagnent, par le fait aussi qu'actuellement dans les nuits du bien commun ils laissent plus entrer de journalistes, les seuls qui entrent c'est Boulevard Voltaire ou des choses comme ça qui sont, pour ceux qui connaissent pas, des médias d'extrême droite. Le seul soutien public qu'ils obtiennent, c'est ceux du RN, de Reconquête, de choses comme ça. Enfin, au bout d'un moment, à force d'avoir des baisers de la mort comme ça toutes les semaines, enfin, les choses elles sont flagrantes. On voit les militants identitaires de Némésis, de Jean-Eudes Gana, etc. traîner. Enfin, ceux qui vont aussi aux nuits du bien commun, c'est pas anodin non plus. Donc, quand bien même ils essaient de s'en défaire, ça, il y a pas de. Et même dans les personnes qui sont au cœur de la matrice et de la machine de cet espace philanthropique, enfin tous ils ont des connexions avec les galaxies réactionnaires, si c'est pas eux-mêmes qui sont à l'initiative, comme Lionel Devic, qui est le secrétaire du fonds de dotation de la nuit du bien commun, qui est à l'initiative, enfin qui est créateur d'une fondation qui s'appelle la Fondation pour l'école, qui promeut les écoles hors contrat, qui finance les écoles hors contrat catholiques intégristes. C'est pas du tout, enfin ils ont beau faire le ménage, etc., ils vont avoir du mal à vraiment faire le ménage, puisque en fait c'est l'ADN de leur projet, voilà. Et je voulais revenir peut-être vite fait aussi sur la notion de bien commun, parce qu'en fait c'est souvent qu'on nous dit, ah en plus ils utilisent la notion de bien commun quand même, c'est flou, etc. Et du coup j'avais envie de vous lire un petit extrait de notre carte qui revient un petit peu sur cette notion là sur la notion de bien commun. Donc la notion du bien commun mobilisée par Stérin n'est pas anodine. Historiquement rattachée à la doctrine sociale de l'Église et à la pensée thomiste, elle désignait chez saint Thomas d'Aquin l'ensemble des conditions permettant l'épanouissement collectif, une vision qui condamnait d'ailleurs l'usure et la fructification de l'argent. Pardon. Mais l'attrait de Stérin pour ce concept ne puise manifestement pas dans ses racines philosophiques et religieuses authentiques. Ce qui correspond davantage au projet de Stérin, c'est son opposition fondamentale à l'héritage de la Révolution française. En renversant la monarchie et l'emprise de l'Église, dans 1789, a substitué la notion d'intérêt général à celle de bien commun, une transformation que Stérin semble vouloir inverser. Cette nostalgie de l'ancien régime transparaît dans tous ses financements, valorisation des figures antirépublicaines, proximité avec l'aristocratie, et surtout l'énergie considérable déployée pour restaurer l'influence catholique dans l'éducation, l'évangélisation, la culture et la prise en charge des vulnérabilités. Voilà. Donc on l'entend pas de la même manière, la notion de bien commun, elle est fondamentalement politique aussi dans la façon dont lui l'emploie, quoi.
Merci beaucoup Léa. Tu voulais réagir ?
Je peux juste ajouter un tout petit truc. On parle de la privatisation des associations du secteur associatif aujourd'hui, et c'est un fait de par le désengagement de l'État. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit, il me semble, c'est que les associations qui sont par ailleurs financées par les nuits du bien commun reçoivent aussi, pour la plupart, d'énormes financements publics. Sont pour certaines abreuvées d'argent public. C'est particulièrement le cas, notamment dans l'éducation à la sexualité. On a publié une enquête dans la revue La Déferlante avec une collègue qui s'appelle Pauline Ferrari. Et clairement, des associations comme le planning familial, comme d'autres, qui sont historiques dans le domaine, aujourd'hui perdent quelque part de la place sur le marché de l'éducation à la sexualité, de l'EVARS, parce que des associations catholiques conservatrices, extrêmement bien structurées, extrêmement bien financées, y compris par les pouvoirs publics, arrivent sur le terrain et se font une place peu à peu dans les établissements scolaires catholiques privés, mais pas que. Aussi dans les établissements catholiques, du coup, en contrat avec l'État, qui ont du coup des obligations vis-à-vis de l'État, qui sont censées respecter le nouveau programme d'éducation à la sexualité, qui ne le font pas du tout. Donc ça, c'est aussi un vrai risque aujourd'hui, et je pense que c'est important de le pointer du doigt, parce que au-delà de cette privatisation du secteur associatif, ces assos sont aussi abreuvés d'argent public.
Merci infiniment à vous, Elsa, Léa, Rosane et Olivier.
Son projet contre les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée, le système n'est pas en danger. Nous on ne veut pas perdre notre vie à la gagner. Mais pour Macron, Borne et Macron, peu importe que les comptes soient bons, que cette réforme soit en régression, ils veulent moins de dépenses publiques, soi-disant pour gagner du fric. Et c'est surtout troquer nos vies pour le profit des fonds de pension. Jusqu'au tombeau, 64 ans, non, la retraite, il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec eux, c'est pas gagné. Les riches, ok, mais les précaires vont crever. Nous, on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous, on veut vivre. Des petits salaires, un vrai système égalitaire pour les ouvriers, respect des pénibilités, et pour les femmes qui triment, qui rament, l'égalité et la fin de la misère des salaires, leur permettre de travailler sans les bambins à s'occuper, et pour tout le monde, jeune comme vieux, une retraite juste et solidaire jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non, il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec eux c'est pas gagné. Les riches, ok, mais les précaires vont crever. Nous on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre. Avec eux, c'est pas gagné. Les riches, ok, mais les précaires vont crever. Nous, on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous, on veut vivre.
Il y a deux jeunes du collectif des jeunes de Belleville qui aimeraient bien prendre la parole pour parler de la journée de mobilisation du 18 décembre.
Là, merci. Bonsoir tout le monde. Merci de nous avoir donné la parole, de pouvoir nous exprimer ici devant vous. Et merci, aussi d'être si nombreux. En fait, nous faisons partie du collectif des jeunes du parc de Belleville. Le collectif des jeunes du parc de Belleville, c'est un collectif militant des mineurs isolés qui se sont formés en septembre 2023. Et il y a des années cela, donc c'est un collectif qui s'auto-organise, qui milite contre la montée de l'extrême droite. C'est un collectif qui milite et réclame les droits. C'est un collectif qui lutte contre l'injustice, l'inégalité, l'islamophobie, la xénophobie, l'anticapitalisme et tout ce qui va avec. Et c'est en se mobilisant et en faisant notre organisation et en se donnant les mains entre nous qu'on peut vaincre l'extrême droite. Et dans les actions concrètes qu'on a eu à faire, nous avons eu à faire des occupations. Nous occupons des bâtiments qui appartiennent à la ville ou à l'État parce que, voilà, ce sont les personnes qui sont responsables de la misère de certaines personnes qui sont à la rue. En fait, les mineurs isolés, je ne sais pas si tout le monde connaît le contexte. En fait, c'est des personnes qui viennent dans d'autres pays, qui ont des différentes raisons. Chacun a sa raison. Mais ils sont là. Normalement, arrivés ici, ils sont soumis à des évaluations auxquelles c'est des évaluations qui passent de façon inadaptée et inhumaine, qui bafouillent et ne respectent pas les droits humains. Et par conséquent, ces personnes-là, après l'évaluation, ils sont automatiquement remis à la rue parce que les personnes qui font l'évaluation estiment que tout ce qu'ils rencontrent ces personnes-là, c'est des mensonges. Ils ne cherchent même pas à savoir si la personne elle est traumatisée après avoir vécu des voyages traumatisants et des choses aussi qui peuvent les heurter. Ils ne se soucient pas de cela. Et du coup, ces personnes-là, ils ont le droit de contester cela. Ils déposent recours au tribunal, des recours qui durent 6 mois, voire même une année. Et pendant ce temps-là, ils ne bénéficient aucun droit, aucun suivi, aucune aide de façon administrative. Ces personnes-là, ils n'existent pas vraiment. Et ce qui revient à les ramène à une situation de précarité. Et nous sommes invisibilisés par l'État parce qu'il y a la ville et l'État qui dit que la France est un pays qui accueille. Et là, à Paris aussi, on dit que c'est une ville d'accueil et tout. Mais nous, quand même, nous sommes à la rue. Est-ce que ça nous concerne aussi? Voilà, c'est quelque chose qu'il faut repenser tous ensemble. Parce que là, c'est une division qui se passe, une division des classes sociales. Là, c'est les immigrés. Si vous n'allez pas bien, c'est les immigrés. Après, c'est la personne pauvre qui est à côté de toi, qui a envie de gratter pour que toi, tu ne gagnes rien. En fait, c'est des discours qui vont amener à ce que certaines pensent qu'ils sont supérieurs par rapport à d'autres. Et nous, il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièces-là parce qu'il faut reconnaître que nous tous ici, même si nous n'avons pas les mêmes revendications, du moment que nous subissons une injustice et une inégalité, c'est ce qui nous réunit et c'est ce qui nous unit. Parce que la convergence, c'est le seul moyen qui va nous permettre de pouvoir vaincre l'extrême droite et l'anticapitalisme, en fait. Donc, du coup, c'est dans ce cadre-là que le collectif évolue et essaie de militer pour visibiliser la situation de toutes et tous, quoi. Et dans ce cadre-là aussi, nous avons formé une coordination nationale des mineurs isolés qui existe aujourd'hui dans différentes villes. Et on va continuer de s'organiser. On demande, est-ce que... Merci. Et du coup, ensemble, quoi, on va vaincre. Et dans ce cadre-là aussi, je vais juste rappeler que nous appelons une manifestation nationale le 20 novembre, étant la Journée internationale des droits de l'enfant. Du coup, nous demandons tous à ceux qui sont à Paris de nous rejoindre, c'est la place de la République, à partir de 14h. Et vous pouvez aussi suivre le lien de la Coordination nationale des mineurs isolés, c'est coordination-nationale-MNA. Donc si jamais c'est le lien Instagram de la coordination, si jamais vous êtes intéressé et que vous avez connaissance des autres vous avez connaissance ou des liens dans d'autres villes qui pourraient, ou à laquelle il pourrait y avoir des aînés en situation de précarité qui pourraient quand même se former, s'auto-organiser, parce qu'il faut retenir, l'auto-organisation est hyper importante pour avoir, pour sortir de cette situation de précarité et pouvoir décider nous-mêmes, quoi. Voilà. Merci, nous remercions aussi le collectif que nous ont invité et merci à vous tous. Je vais passer la parole à mon ami.
Bonsoir à tout le monde. Mon ami, il a tout dit. Moi, je voulais que maintenant, on fait un peu de slogan de collectif. Répétez avec moi, il y en a marre seulement. Il y en a marre. Il y en a marre. Le président. Le gouvernement. Marine Le Pen. Bardella. Éric Zemmour. Égal. Personne n'est illégal. Égal. Quand je dis pas de façon, vous dites dans nos quartiers. Et pas de façon. Et pas de façon. Et pas de façon. Et pas de quartier.
Pour les fachos.
Et pas de quartier. Et pas de quartier. Et pas de quartier. Le 20 novembre, venez à République. Vous allez nous voir là-bas. Merci tout le monde. Merci à vous. Bam, bam.
Et le 18 décembre aussi, il y a la manifestation organisée par la Marche de Solidarité. C'est une journée dédiée au collectif des sans-papiers et de tous les sans-papiers et de toutes les personnes qui sont en situation irrégulière en France ici. Bah voilà, venez aussi nous soutenir. Nous serons aussi avec la Marche de Solidarité.